de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta, aujourd'hui le 12 septembre 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et l'autre info à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serge Tok, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. B.J. Habibie est décédé, le président Joko Widodo a présenté ses condoléances. L'Inde apprécie l'Indonésie en croise la conclusion des négociations du partenariat économique global régional. Le président Joko Widodo ouvre la 37e conférence de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN. Nias du Sud mérite d'être une destination de tourisme maritime de classe mondiale. Et l'enfant, l'icône de la ville créative, Solo accueille le festival Backcraft 2019. Voici le journal complet. Le troisième président de la République d'Indonésie, Baharudin Yusuf Habibie, plus connu sous le nom B.J. Habibie, est décédé mercredi après-midi à l'hôpital central de l'armée Gatot Subroto à Jakarta le 11 septembre. Le président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement et tout le peuple indonésien exprimer leurs sincères condoléances pour les décès de B.J. Habibie. Le président est arrivé à l'hôpital militaire de Gatot Subroto 5 minutes après le décès de B.J. Habibie. Il a également prié pour que les familles laissées pour compte soient dotées de fermeté et de patience. Le président espère également que les idées de B.J. Habibie au cours de sa vie peuvent être continuées. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Permettez-moi au nom de tout le peuple indonésien et du gouvernement de transmettre nos sincères condoléances pour le décès du professeur B.J. Habibie à 18h05 heure de l'Indonésie occidentale à l'hôpital de l'armée Gatot Subroto. Espérons que la famille qui est laissée ait donné la patience et peut continuer ce qui est aspiré par le professeur B.J. Habibie au cours de sa vie. En outre, le président Joko Widodo rappelle que B.J. Habibie est un homme d'État qui devrait devenir un modèle dans la vie quotidienne de la nation. Joko Widodo discute fréquemment de divers problèmes nationaux avec B.J. Habibie. Pour lui, outre le troisième président de l'Indonésie, B.J. Habibie est également un scientifique et le père de la technologie indonésienne. Dans un lieu séparé, le ministre d'État Pratikno a indiqué que le gouvernement avait demandé à la population indonésienne de hisser les drapeaux blancs et rouges en signe de chagrin indonésien à la suite du décès de B.J. Habibie. L'appel a été transmis non seulement au public, mais également à tous les bureaux du gouvernement et aux institutions de l'État, au pays et à l'étranger. Baharudin Yusuf Habibie naît le 25 juin 1936 à Parepare, dans le sud de Sulawesi, et est décédé après des soins intensifs depuis le 1er septembre 2019. Le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal, apprécie l'encouragement et le soutien du gouvernement indonésien au forum régional et bilatéraux pour inviter 16 pays à compléter les points de l'accord commercial multilatéral du partenariat économique régional global qui n'a pas trouvé de terrain d'entente depuis 7 ans. Cela a été révélé par Pius Goyal lors du dernier jour de la 51e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN qui s'est tenue du 5 au 11 septembre à Bangkok en Thaïlande. L'Indonésie a encouragé l'Inde à trouver une solution, a-t-il déclaré, afin que les principaux points des négociations sur le partenariat économique global au niveau régional puissent être approuvés comme prévu en novembre prochain. Comme indiqué par Antara, l'ASEAN et les partenaires commerciaux régionaux considèrent le pacte d'accord comme un corridor assez important pour accroître les flux de marchandises et le commerce des investissements. Cela est nécessaire en particulier face à la menace d'impact négatif sur les pays en développement, du ralentissement de la croissance économique mondiale et du potentiel de croissance économique en récession de plusieurs pays. Le président Joko Widodo a inauguré l'ouverture de la 37e conférence de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN, SAFIO 37, qui s'est tenue à Jakarta International Expo à Kemayoran, mercredi le 11 septembre 2019. La 37e conférence a été organisée par des organisations d'ingénieurs de 10 pays de l'ASEAN, qui sont membres de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN, AFEO, afin de rassembler des ingénieurs de l'ASEAN et d'échanger des connaissances, des idées et des réflexions sur le développement économique durable de l'ASEAN. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a demandé à tous les ingénieurs de l'ASEAN de renforcer la fraternité afin d'intensifier la coopération. L'ASEAN doit continuer à s'unir car c'est une grande puissance économique mondiale. Le président était accompagné du président de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN, qui préside également l'Association indonésienne des ingénieurs, Heru Dewanto. À cette occasion, le président Joko Widodo a reçu un prix de l'Association des ingénieurs de l'ASEAN. La conférence d'AFIO a lieu du 11 au 14 septembre. Heru Dewanto espère que la conférence de SAFIO est devenue le moment de meilleurs ingénieurs de l'ASEAN pour contribuer à l'économie. L'économie de l'ASEAN est la 5e plus grande où 60% de la population est en âge productif et il y a 10 licornes. La résidence de Nias du Sud en province du nord de Sumatra est considérée comme l'une des destinations mondiales de tourisme maritime. C'est ce qu'a affirmé le directeur général du développement et de l'autonomisation des villageois du ministère des villages et des régions défavorisées et de la transmigration Taufik Majid Atluk Dalam mercredi lié à la tenue de Nias Pro International Surfing à la plage de Sorake au sud de Nias du 10 au 15 septembre 2019. 26 participants de 15 pays ont assisté à l'événement international. Bien qu'il soit connu dans le monde comme le 10e spot de surf après Hawaï, Nias devrait être plus connu et visité par les touristes après cet événement. L'Agence indonésienne pour l'économie créative, BECRAF, organisera un événement annuel, à savoir le Festival de BECRAF 2019 du 4 au 6 octobre, à la forteresse de Vanstenbroek, Solo, Java Central. Comme rapporté Antara, Ricky Yosef Pesik, directeur adjoint de l'Agence pour l'économie créative, a déclaré mercredi à Jakarta que le choix de la ville de Solo comme hôte du 3e festival de BECRAF était une demande directe du gouvernement local au directeur de l'Agence pour l'économie créative, Triawan Munaf, lors de visiter la région. Il a expliqué que la région choisie pour accueillir chaque année le festival de BECRAF est une ville possédant une économie créative comme Bandung, fournisseur de ressources humaines de qualité supérieure. Outre Bandung, Surabaya qui a une vision et une mission créative et innovante, et Solo qui devient la zone de naissance d'un réseau de villes créatives nationales. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa. Wajah sila di prasetya ada segerjanya kampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetapi udara. Yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Voici le commentaire le 12 septembre 2019 sur l'importance de la journée de visite à la bibliothèque. La journée de visite à la bibliothèque est commémorée tous les 14 septembre et le mois de septembre devient le mois d'amour de la lecture. Les deux moments importants ont été lancés en 1995. L'objectif était d'encourager les Indonésiens d'aimer la lecture. C'est parce que par la lecture, l'esprit sera ouvert et recevra de nombreuses connaissances. L'intérêt pour les lectures affectera alors les vies futures de l'individu et de la nation. Par conséquent, la journée de visite de la bibliothèque est importante et essentielle pour le peuple. Cependant, parallèlement au développement technologique, l'existence de la bibliothèque continue de diminuer chaque année, ce qui permet d'obtenir facilement des informations via Internet, accessibles à tout moment et en tout lieu. La bibliothèque peut être le pont dans l'éducation des Indonésiens, selon la loi numéro 43 de 2007, qui mentionne la fonction et le rôle de la bibliothèque. Voir ce phénomène nécessite certes de la créativité et de divers efforts pour que l'intérêt de visite de la communauté à la bibliothèque s'améliore encore. Les agences de bibliothèques de différentes régions organisent généralement diverses compétitions et activités comme exposition de livres, une critique des livres, un concours d'écriture, un concours de discours, un récital de poèmes et bien d'autres. Comme ce qui a été fait par l'agence de la bibliothèque de la région de l'Est de Belitung, qui a organisé diverses activités pour renforcer l'intérêt des gens pour la lecture des livres, en particulier les enfants, à travers des livres de contes culturels régionaux, afin d'augmenter leur amour pour la lecture et les visites à la bibliothèque. En outre, la bibliothèque et l'agence d'archives de la région de Demak, dans le centre de Jaffa, encouragent également la culture de la lecture en organisant chaque mois une visite à la bibliothèque intitulée « Génération de l'alphabétisation, génération anti-canulaire ». Cette activité du mois de visite est faite avec des nuances intérieures et extérieures. Ajuster le développement de l'époque et alphabétisation, certains murs des parcs de bibliothèques seront peints de peintures murales pouvant être utilisées pour des activités selfies et instagrammables. Avec la journée annuelle de visite à la bibliothèque organisée chaque 14 septembre, tous les Indonésiens, en particulier les millénials de villages et de villes, devraient prendre conscience de l'importance d'améliorer l'intérêt de la lecture pour devenir des personnes bien informées et mises à jour. C'est tous les commentaires. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 septembre. On commence par un coup d'état organisé par l'armée turque dirigée par Kenan Evren. Le coup d'état de la Turquie du 12 septembre 1980, lancé par le général Kenan Evren, était la troisième tentative de coup d'état en Turquie après les coups d'état de 1960 et de 1971. Le coup d'état avait débuté par un conflit armé entre l'aile droite et l'aile gauche, qui était une guerre indirecte entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pour intervenir, l'armée turque a laissé le conflit s'aggraver. après le coup d'État, la violence a immédiatement cessé. On a considéré le coup comme un rétablissement de l'ordre. 50 personnes ont été condamnées à mort, 500 000 ont été arrêtées et des centaines sont mortes en prison. Le tremblement de terre à Bengkulu le 12 septembre 2007. Le tremblement de terre à Bengkulu en 2007 était une série de tremblements de terre survenus dans la fosse de Java au large de la côte de Bengkulu à Sumatra, en Indonésie. Ce séisme a déclenché une alerte au tsunami sur les côtes de l'océan Indien. Le séisme initial avait une magnitude de 7,9 survenue le 12 septembre 2007. L'épicentre était situé à environ 10 km sous terre, à environ 105 km au large de Sumatra. Ce séisme principal a été suivi d'une série de répliques sur la même faille. Le séisme principal a également été suivi d'un raz-de-marée qui a ensuite inondé au moins 300 maisons et bâtiments publics à l'île de Pagai, les îles Mentawai, jusqu'à une hauteur de 1 mètre. 21 personnes ont été tuées et des centaines blessées. La suite, la collision de train à Chatsworth, 12 septembre 2008. Cet accident de train s'est produit le 12 septembre 2008 lorsqu'un train de fret d'Union Pacifique est entré en collision avec le train de passagers de Metrolink au district de Chatsworth, Los Angeles, aux États-Unis. Cet accident a tué 25 passagers. L'erreur est parce que le mécanicien de train de Metrolink était occupé à recevoir les messages. Il ignorait le signal rouge et continuait à marcher. Cette erreur fatale a coûté 500 millions de dollars à Metrolink. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara. Namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita juara.
Indonesia juara.
Takkan ada yang tak bisa bila kita percaya. Jangan pernah kau menyerah untuk Indonesia juara. Satu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita. Oh, jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama
juara.
chanson intitulée Indonesia Terhebat, qui signifie l'Indonésie est le meilleur, chantée par Abdul and the Coffee Theory. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indocœur, de 33, de 5 kHz. Et vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Modernisie intitulée « Il n'y a plus de fumée à la frontière indonésienne ». La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a souligné qu'il n'y avait plus de fumée dans l'espace aérien transfrontalier d'Indonésie vers les pays voisins. Madame Siti Nurbaya Bakar a déclaré dans un communiqué de presse à Jakarta lundi que les mesures pour éteindre les incendies de forêt et de terre continuaient à faire à tous les points de feu. Selon Madame Siti Nurbaya, on a fait l'application de la loi à Kalimantan Occidental et 19 concessions ont été scellées. Elle a expliqué que l'état de la description de points chauds jusqu'à dimanche a été réduit d'environ un tiers par rapport à la situation la semaine dernière. Le gouvernement étudie les indices d'incendie en étudiant le réseau d'incendies suspects. Elle a déclaré que le gouvernement, en collaboration avec les communautés locales, continue également à éteindre les incendies de forêt et de terre à Riau, Jambi et Sumatra du Sud. Les pannes intégrées font partie du système de contrôle après les événements forestiers et incendies 2015. L'Indonésie a fait des mesures correctives et s'est révélée capable de surmonter les incendies de forêt et de terre en 2016, 2017 et 2018. Le gouvernement continuera également à travailler dur pour résoudre ce problème. Le gouvernement indonésien continue de travailler pour les intérêts de la population. La ministre Siti Nurbaya a également continué à encourager l'équipe de lutte contre les incendies sur le terrain en tant qu'équipe de premier plan pour continuer à travailler s'il existait un risque d'incendie. Elle a souligné que 99% des incendies en Indonésie étaient causés par des facteurs intentionnels de l'homme. Elle ne laissera pas ceux qui brûlent des forêts et des terres. Son parti poursuivra et réprimera les auteurs. C'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
kehangatan cintamu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Citra Scolastica dont le titre est « Seruan Kebaikan » en français « Appel à la bonté ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous. Voici le magazine culturel sur Tiwul, la cuisine traditionnelle du Gunung Kidul. L'Indonésie est un pays riche en diversité culturelle. Le nombre de provinces indonésiennes rend certainement les habitudes de la population sont différents. Le langage distinctif, les vêtements distinctifs et les aliments spéciaux de chaque province sont différents. Tiwul est un repas très historique, car il existe depuis longtemps. Historiquement, à l'époque coloniale, cet aliment était utilisé comme aliment de base pour le peuple et était consommé avec des plats d'accompagnement et de légumes. Même après l'ère coloniale, cet aliment reste un aliment de base si les stocks de riz s'épuisent avant la période de récolte. Tiwul est un aliment traditionnel de Gunung Kidul, fabriqué à partir de manioc transformé. Cette nourriture est très unique, en plus de son goût très distinctif. Les habitants de Wonosobo, Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul et Blitar en mangent tous les jours. Dans d'autres régions, telles que Kebumen, Banyumas et Cilacap, on trouve également des recettes culinaires similaires, mais mieux connu sous le nom de Oye. Cette gastronomie a même été consommée comme aliment de base pour une partie de la population indonésienne pendant l'occupation japonaise. Tiwul est fabriqué à travers plusieurs processus. Dans le processus de fabrication, le manioc est pelé et séché au soleil. Le manioc séché est communément appelé gaplek. Gaplek est ensuite broyé jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et devient une farine. Ensuite, la farine est cuite à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit cuite et devient tiwul. Tiwul est généralement servi avec de la noix de coco râpée et un peu de sucre brun. Le goût est sucré et salé. Mais il peut également être servi avec des accompagnements ou du sambal. Ce n'est pas difficile de trouver tiwul dans des régions hors de l'île de Java. Cette cuisine est la plus facile à trouver sur les marchés traditionnels. En outre, elle a une variété de saveurs. Il y a du tiwul sucre brun, du chocolat, du fromage et des saveurs salées. En outre, il existe de nombreuses variantes de services et d'ingrédients supplémentaires pouvant être ajoutés, entre autres le riz noir collant, le maïs bouilli et le manioc bouilli. Le prix est assez bon marché, 5 000 roupias par pièce. Il existe également des restaurants simples vendant cet aliment unique et la présentation est également plus variée et plus moderne. Pour ceux d'entre vous qui visitent Yogyakarta, cette nourriture est certainement très intéressante à goûter. Chers auditeurs, voilà le magazine culturel sur le Tea World.
Untuk memilih, kau harus tahu.
C'était la troisième chanson intitulée Maaf, qui signifie pardon, chantée par Gaitza Kenang. La rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous revoir dans le programme de l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je présente des informations sur le Festival de la Flore et de la Faune 2019. Pendant un mois complet, du 6 septembre au 6 octobre 2019, le département des forêts de la province de DKI Jakarta organise le Festival de la Flore et de la Faune 2019, ou abrégé en FLONA, qui présente l'exposition de plantes, de légumes, de fruits et d'animaux. Selon Anies Baswedan, gouverneur de DKI Jakarta, le Festival de la Flore et de la Faune constitue une alternative aux familles et aux communautés qui souhaitent profiter et étudier de la richesse de la flore et de la faune indonésienne. Anies pense que l'exposition, organisée régulièrement depuis 1971, peut avoir un impact et être bénéfique pour l'environnement. Il espère que les visiteurs iront à l'exposition de la flore et la faune 2019 à Jakarta pour regarder la diversité de la flore et de la faune. Le thème du festival de cette année est conforme à la devise du gouvernement provincial de DKI Jakarta, c'est le nouveau visage de DKI Jakarta. Dans cette année, le département des forêts de DKI Jakarta a créé une plateforme intitulée Métamorphose. Métamorphose, on le choisit comme un processus de transition de l'imparfait au parfait. Pour cette raison, le département des forêts de DKI Jakarta a également transformé le concept cocon en un papillon de l'entrée principale à la zone d'entrée de la plateforme d'exposition. Chers auditeurs, Mila Ananda, chef du département des forêts de Jakarta Central, a déclaré que ce festival était instagrammable. Le département des forêts de la province du DKI Jakarta a intégré des milliards de plantes ornementales en fleurs dans ce festival. Non seulement animé par des expositions sur la faune et la flore, ce festival a également été animé par des spectacles de chiens et de chats, des grands écrans de MVP et des jeux de gants de lapin. Sur une surface de 25 000 mètres, on le remplira des jeux comme le renard volant, l'escalade sur les murs, le concours d'oiseaux chanteurs et le ménage fantôme. Chers auditeurs, voilà l'Indonésie en couleur sur le Festival de la Flore et de la Faune 2019.
Hanya ingin membuatmu bahagia.
kesalahanku, keegoanku. Berikan ku kesempatan untuk perbaiki semua, karena ku hanya ingin membuatmu bahagia.
Kasih maafkanlah aku,
maafkanlah.
Dan jangan kau membisu karena kesalahanku, keegoanku. Berikan ku kesempatan untuk perbaiki semua, karena ku hanya ingin membuatmu bahagia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers amis de Quatre Coins du Monde, bonsoir. Comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix de l'Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanson de Christine Natalina Panjaitan intitulée « Je l'ai odi ». Christine Panjaitan n'est pas un nom étranger dans l'industrie de la musique indonésienne. Son nom était populaire à travers une chanson « Dis-moi honnêtement » qui est chantée ou popularisée par les autres chanteurs jusqu'à présent. En plus de la chanson intitulée « Dis-moi honnêtement », il y a également une autre chanson à succès intitulée « Je l'ai dit », composée par Rinto Harahap. Bon, serviteur, voici donc la chanson de Christine Panjaitan intitulée « Je l'ai dit ». Bonne écoute et à bientôt.
Terbakar nanti, jangan
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.